Pluriel. Une émission réalisée et animée par Roland Bensoussan. Réalisée et animée par Roland Bensoussan.
Chers amis, bonsoir. Roland Bensoussan, micro de Judaïsme Pluriel, pour une heure à passer en votre compagnie, comme tous les mercredis soirs, de 20h à 21h. Ce soir, cerveau et musique, avec Daniel Schon. Depuis toujours, la musique est présente dans la société des hommes. Elle est, on peut le dire, un stimulus culturel. Elle peut calmer, ne dit-on pas d'ailleurs que la musique adoucit les mœurs, elle peut exacerber, elle peut stimuler, et on peut penser d'ailleurs aux marches militaires, elle accompagne les rites sociaux et culturels, elle favorise enfin la convivialité. Mais en matière de son et de rythme, le langage, avec ses phonèmes, ses intonations, ses silences, ses accentuations, n'utilise-t-il pas les mêmes réseaux? Que se passe-t-il dans notre cerveau? Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque les informations arrivent et que cela induit des sentiments de joie, de tristesse, des émotions fortes? Et si on pense au rôle de l'affect dans le processus cognitif, alors on peut concevoir l'impact de la musique, l'impact que peut avoir la musique sur l'homme. Pour nous éclairer sur tous ces mécanismes complexes, j'ai invité Monsieur Daniel Schon, qui nous a fait l'immense plaisir d'accepter notre invitation. Merci Daniel d'être avec nous ce soir pour nos auditeurs de Radio JM.
Merci à toi pour l'invitation. Voilà.
Alors, comme d'habitude, je vais te présenter à nos auditeurs. Alors Daniel a deux aspects, et c'est ce qui fait qu'il est tout à fait l'homme adéquat ce soir. Côté musique, Daniel Schon a étudié le violoncelle au conservatoire de Padoue en Italie. Il s'est ensuite perfectionné avec de grands maîtres comme Théodora Campagnero et Menachem Meir, et il m'a précisé, d'ailleurs je ne savais pas, que c'est le fils de Golda Meir, donc, et puis élève de Pablo Casals aussi. Il obtient le conservatoire de le diplôme du conservatoire de violon de Padoue, c'est ça.
De Padoue,
hein,
oui.
Oui. Alors ensuite, tu as joué dans plusieurs formations, baroque, classique, jazz, avec une prédilection pour la musique de chambre et en particulier le quatuor à cordes.
C'est ça.
Côté science, maintenant. Toujours en Italie, tu fais des études en neuropsychologie à l'université de Padoue. Puis tu obtiens un doctorat en neurosciences à Marseille et Trieste en 2004. Ensuite, tu deviens chercheur au CNRS, puis directeur de recherche à l'Institut de neurosciences des systèmes à Marseille. Alors c'est CHU Timone à l'INSERM, Université Marseille, c'est ça, ex-Marseille.
C'est ça.
Alors, tu t'intéresses plus particulièrement au lien entre la musique, le langage et le cerveau. Alors, des publications, tu en as fait des tonnes, j'en citerai aucune, d'abord parce qu'il y en a trop, et deuxièmement parce qu'elles sont la plupart en anglais, donc on sait que tu en as fait beaucoup, et puis bien sûr tu fais des conférences, et tu participes à des colloques.
Exact.
Alors, j'ai recherché un petit peu, j'ai trouvé deux colloques que je vais citer. Tu es intervenu à l'AFIRM. C'est une association franco-israélienne pour la recherche en neurosciences. C'est une association qui est née il y a environ 5 ans, créée par le professeur Jean-Claude Picard, au moment où, en France, plusieurs universités ont déclenché le boycott des sciences israéliennes. Donc tu es intervenu là, c'était le 9e colloque, le titre c'était « Art, musique et créativité, que nous apprennent les neurosciences ». Voilà, et tu as traité le terme de musique, langage et plasticité du réseau. Et puis bientôt, le 27 janvier exactement, tu interviendras aux 18e journée d'études de l'association ERDAM. Alors, qu'est-ce que l'association ERDAM? C'est une association internationale de recherche et développement des aides aux malentendants. C'est une association professionnelle et c'est dire encore l'apport de la musique même dans ce domaine-là.
Absolument.
Et ça se passera à la Timone.
C'est voilà. Ça, c'est exact.
Voilà, j'ai tout dit et maintenant nous allons rentrer, si tu veux bien, dans le vif du sujet.
Très bien.
Alors, première question, ce sont des questions un peu bateau, hein, je ne suis pas spécialiste. Notre cerveau a-t-il quelque chose de particulier qui le rend apte à la musique?
Absolument. Je pense qu'il y a, plusieurs choses qui le rendent particulier par rapport, par exemple, à d'autres espèces où on trouve pas la musique. Mmh. Et tout de suite, on est dans le cœur des mathématiques, sur une question qui est de très ample envergure que tu poses là. C'est un peu qu'est-ce qui nous rend un peu différent. Pourquoi on retrouve la musique chez l'homme, et on va pas la retrouver, en tout cas pas de la même façon, dans d'autres espèces animales. Bien que il y ait des oiseaux qui vont chanter, mais ils vont chanter plutôt pour se faire reconnaître, pour appeler un compagnon ou une compagne pour la reproduction, etc. Un tout petit peu pour la communication, quand même un tout petit peu, mais c'est pas vraiment la musique dans le sens où l'homme le fait, où l'homme l'a fait, et là, qui nous rend un peu différent aussi de autres espèces et qui nous permet d'avoir la musique, c'est aussi la capacité de communiquer d'une manière aussi sophistiquée avec le langage. Et donc le cerveau, oui, il a sans doute quelque chose de spécial parce que pour l'homme, c'est indispensable de pouvoir communiquer, d'avoir un système de communication qui est complexe. C'est ça qui nous rend un peu unique. Nous sommes en train de communiquer là.
Exactement.
Toi, tu bouges, moi j'interagis, tu t'es à l'écoute, et etc. On pourrait très bien être en train de communiquer autre chose que des mots. Et à être en train de jouer, par exemple, voilà, des musiciens, ils sont là pour s'échanger des émotions, pour créer une cohérence dans un groupe, pour faire des fêtes, pour créer quelque chose d'unifié, de cohérent à l'intérieur d'un groupe. Et donc tout ça, le cerveau est capable de le faire grâce, effectivement, à un certain nombre d'air qu'on retrouve pas forcément chez d'autres espèces, qui sont plus développées chez l'homme par rapport à d'autres espèces. Et donc là, il y en a un certain nombre. Je ne vais pas forcément faire, parce que c'est pas ça qui est intéressant de rentrer dans le détail.
Non.
Mais en réalité, donc pour la musique, pour faire simple, d'une certaine manière, il faut un système de décodage de l'information auditive, parce que ça rentre par les oreilles. Mais ça, d'autres animaux ont ça, d'une manière très sophistiquée. Ils entendent très bien. Les chiens, même, ils entendent dans des fréquences très aiguës, etc. Les chats, ils entendent bien aussi. Il y a plein d'animaux qui ont une bonne audition, on va dire. Donc, ça suffit pas de dire qu'est-ce qu'ils ronce. Voilà. Mais après, il faut faire des choses avec ces sons. D'une certaine manière, il faut jouer avec ces sons. Il faut avoir envie de jouer. Et jouer, c'est un peu comme un enfant qui prend des morceaux de caplat, des morceaux de bois, qui va faire une construction. Voilà. Il faut avoir envie de jouer avec ces sons et de le combiner. Et cet art de combiner les sons qu'on retrouve dans le langage, parce que le langage aussi, c'est plein de sons que je suis en train de produire pour te communiquer un peu mon message, même si je me perds un tout petit peu, mais c'est pas grave. Et donc, cet art de combiner les sons, en fait, elle a lieu plutôt dans une partie du cerveau qu'on appelle le cortex frontal.
Oui.
Il est frontal parce qu'il est plutôt devant, on va dire, et c'est le cortex frontal, en fait, qui nous différencie le plus au niveau déjà de la forme du cerveau par rapport déjà aux primates non humains et bien évidemment aussi à d'autres espèces qui ne sont pas de primates.
Alors, des fois on dit, où se situe cette zone du cerveau réservée à la musique? Est-ce que c'est le cerveau droit? Est-ce que c'est le cerveau gauche? Et je crois en fait que ça c'est une fausse question.
Oui, on pourrait dire que c'est une question mal posée, mais en réalité c'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de monde qui a encore cette vision-là. Et c'est une vision qui a des raisons d'être qui sont historiques et qui sont essentiellement liées à une étude du cerveau qui se base sur la lésion. Donc cette approche qui était l'approche classique du 19e siècle et d'une partie du 20e siècle aussi, où en fait il y a un patient qui malheureusement a un accident vasculaire cérébral, donc il y a une lésion, une partie du cerveau qui ne fonctionne plus et qui a du coup des déficits fonctionnels, donc par exemple il n'arrive plus à parler. Et donc, c'est là, par exemple, on aura entendu parler peut-être de l'aphasie de Broca ou de Wernicke.
Oui, bien sûr.
Et donc, c'est là où on va constater que souvent, les lésions de l'hémisphère gauche sont associées avec des troubles de la parole, du langage. Et ben, c'est là aussi qu'on va voir que certains lésions de l'hémisphère à droite vont toucher plutôt la musique. Donc, il y a quelque chose qui est vrai, mais en même temps, ce qui n'avait pas été fait à l'époque, d'une part, on n'avait pas accès aux méthodes neuroimagériques qu'on a actuellement, qui nous permettent du coup de regarder chez le sujet sain, comme l'IRM fonctionnel ou l'électroencéphalogramme, la magnétoencéphalographie. Il y en a plein de méthodologies qui nous permettent de regarder chez le sujet sain. Donc, quels sont les aires qui traitent quel type d'information. Mais après, aussi d'une manière un peu naïve, on peut aussi comprendre que chez quelqu'un qui a des problèmes de troubles de langage, on ne va pas tester les compétences musicales, en fait. Alors que des gens plus récemment se sont intéressés à ça, ils sont aperçus que les patients aphasiques, ils ont aussi des troubles musicaux. Et du coup, effectivement, cette dichotomie, déjà, rien qu'avec l'approche qu'on appelle l'approche lésionnelle, elle tombe un peu à l'eau, parce qu'on trouve souvent une comorbidité, en fait, on ne trouve pas une dissociation, en tout cas nette, entre les compétences langagères et les compétences musicales. Et ceci est d'autant plus vrai lorsqu'on va utiliser des méthodes de neuroimagerie et qu'on va effectivement regarder quelles sont les zones du cerveau qui sont importantes pour le langage, pour la musique. Et on va s'apercevoir que les zones qui sont plutôt spécifiques à la musique, eh ben, il n'y en a pas beaucoup. Celles qui sont spécifiques au langage, on reviendra plus tard, je pense, sur ces problèmes-là. Oui. Il n'y en a pas beaucoup. Et que finalement, cette dichotomie de cerveau droit, cerveau gauche, elle est moins marquée par rapport à ce qu'on pense avant. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est complètement fausse. Donc, il y a une partie de vérité. Et c'est vrai que certaines informations, surtout les informations un peu plus lentes, le cerveau, il aime bien les traiter plutôt à droite, et c'est le plus rapide, plutôt à gauche. Et donc, c'est vrai que le langage, il y a des informations qui sont importantes, qui sont très très rapides. On parle de dizaines de millisecondes. Quand je dis rapide, ça veut dire très très rapide. Pour distinguer un bas d'un pas, en fait, il y a 15 millisecondes dans la formation qui distingue un bas d'un pas. Alors que dans la musique, on aura moins cette problématique-là, parce que les notes, ils vont être soutenues,
oui.
Et les notes, elles vont durer quand même une centaine de millisecondes. Donc ça, pour le cerveau, c'est lent, on va dire.
D'accord.
On est sur l'échelle du cerveau. Hein, donc.
Oui, oui.
Et donc, il y a une espèce de prédilection, on va dire, pour tout ce qui est l'information plutôt lente, qui est plutôt traitée à droite, celle plutôt rapide qui est traitée à gauche. Mais c'est vrai aussi que certaines musiques, des changements de timbre, des changements de rythme, ben, eux aussi, ils vont reposer sur l'hémisphère gauche. Mmh. Et qu'en réalité, ces deux hémisphères, ils travaillent la plupart du temps ensemble.
Ensemble.
Voilà.
Alors, il y a plusieurs composantes dans la musique. On peut parler de mélodie, de rythme, de timbre et peut-être d'autres facteurs encore. Est-ce que le cerveau décode chacune de ces composantes de façon distincte ou bien décode-t-il tout ça globalement?
Alors, ça, c'est une question assez difficile. Et je pense qu'il va falloir faire quelques allers-retours.
Oui.
Je vais commencer par dire que l'information est plutôt traitée d'une manière globale. Parce que ça, c'est le message que je préfère donner. Voilà. Donc, les gens, comme ils retiennent la première chose qu'on dit, voilà, c'est dit. Donc, l'analyse est la plupart du temps globale. Ensuite, on peut aller préciser ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend un son, prenons un son pour la musique, okay? Le premier son d'une mélodie, pom, okay. Ce son, il a une fréquence, il a une durée, il a une intensité. Et ces informations, il faut bien qu'elles soient codées d'une certaine manière. Et il y a des zones différentes du cerveau qui vont traiter cette information. Par exemple, au niveau sous-cortical, mais déjà, la cochlée, qui est l'organe qui nous permet de transformer le son, est organisée d'une manière qu'on appelle tonotopique.
Ça veut
tono,
dire
topos, donc ton c'est la hauteur,
oui.
Topos c'est le lieu, ça
oui.
Veut dire que chaque hauteur a son lieu.
D'accord.
Ça veut dire que dans la cochlée, chaque endroit de la cochlée va coder des informations d'hauteur différentes. Les informations graves vont être codées plutôt à la fin, les informations aiguës plutôt au début, et cette tonotopie, donc cette ressemblance en fait au niveau entre la structure et le son, la structure, l'organisation fonctionnelle, le son, on va la retrouver au niveau sous-cortical et même au niveau du cortex, on va retrouver dans le cortex auditif primaire et certaines neurones qui vont répondre à des notes aiguës et d'autres à des notes graves. Ce qui veut dire qu'il y a une certaine spécificité, que certaines caractéristiques et sont traitées localement.
Oui.
Mais c'est un peu plus compliqué que cela parce que en réalité, toutes ces informations et interagissent. C'est-à-dire qu'un son qui est court, lui, la durée du son va influencer aussi la perception de la hauteur. L'intensité, elle aussi, elle va influencer la perception de la hauteur. Et donc là, on reste juste sur un son. Okay? Maintenant, si on complexifie la chose, parce que la musique, c'est pas juste pim, mais c'est et donc toute une série de musiciens qui vont commencer à jouer, plein de sons en simultané. Et donc on a des mélodies. Et donc là, ça devient encore plus compliqué. Et bien évidemment, dans une mélodie, on pourrait se dire, oui, mais chaque note, il faut que tu traites la hauteur. Chaque note, il faut que tu traites la durée pour créer cette mélodie. C'est vrai, mais en même temps, ce qui fait le cerveau, il va toujours anticiper le flux d'informations. C'est-à-dire que toi, en ces moments, tu sais ce que je vais dire. Si je dis, quelqu'un vient de claquer la porte, vraisemblablement. Il fait froid, il faudrait fermer la
porte
ou la fenêtre, etc. Il n'y a pas beaucoup de possibilités. Et en musique, c'est un peu la même chose. Dans la musique, on va créer des prédictions. Donc, on va anticiper. Le cerveau est toujours en train d'anticiper. Et donc, l'information, en fait, avant qu'elle arrive, on l'a presque déjà encodée. Donc, l'information, quand elle arrive, elle est juste là pour confirmer que oui, effectivement, cette note l'a été jouée, mais d'une certaine manière, je le savais un tout petit peu déjà.
Ça, je reviendrai là-dessus parce que j'ai une question à te poser, mais continue.
Voilà. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant pour montrer à quel point l'information est forcément traitée d'une manière globale.
Oui.
Parce que c'est ce que nous, on appelle les effets top-down, donc du haut vers le bas. Pourquoi on dit du haut vers le bas? Parce qu'on dit c'est le certaines régions du cortex qui sont intégrées, par exemple le cortex frontal, dont on a déjà parlé, qui vont influencer le structure du cortex auditif, qui lui code l'information auditive, qui lui-même, il va influencer les structures au niveau sous-cortical, qui eux-mêmes peuvent influencer même le fonctionnement de la cochlée. Donc, en fait, tout cet effet top-down, et Et après, il y a l'information bottom-up, donc l'information qui remonte.
Oui.
Forcément, pour prédire quelque chose, on a besoin d'un port d'information. Mais là, tu vois qu'on a, du coup, toute une boucle. L'information, elle monte. Mmh. Et en même temps, dès qu'on a suffisamment d'informations, on va commencer à anticiper. Et donc, ce qui arrive, il est là juste pour confirmer ce qu'on aurait déjà anticipé. Et donc, c'est ça qui est compliqué aussi d'une manière générale dans l'étude du cerveau. C'est, ouais. Ça concerne pas seulement la musique, mais ça concerne le fonctionnement du cerveau. Et, mais c'est entre autres, d'ailleurs, je pense, je sais pas si on en parlera plus tard, mais je pourrais en dire un mot justement maintenant. Une des choses importantes on a là quand on écoute la musique, c'est ce plaisir qu'on a en écoutant la musique. Et une partie de ce plaisir, je pense, c'est justement, il est là, dans la confirmation de nos attentes. Voilà, c'est quand même agréable de se retrouver un peu chez soi, de dire ah, tiens, je m'attendais à ça, et bien c'est là, c'est cette note, oui. J'avais envie, hein. Pam parabam pam pam pam. Forcément, il faut que ça arrive là, oui. Parce que c'est la tonique, et donc on a envie d'aller sur cette note là, et on peut pas aller ailleurs. Et donc il y a un côté de plaisir et d'esthétique aussi sur ça.
Alors moi, je voudrais te poser une question. Là, depuis tout à l'heure, je t'entends dire quand il s'agit d'une phrase. Bon, on entend le sens des mots et on peut anticiper. Tu as dit je vais fermer là. Bon, on anticipe et on dit la porte, bien sûr, ou la fenêtre. Bon, peu importe. Mais au niveau de la musique, le fait il y a pas un sens dans les notes. Comment le cerveau peut-il anticiper ?
On peut anticiper. Oui. Et on anticipe sur d'autres paramètres. En fait, on n'anticipe pas sur le sens, mais déjà, on peut anticiper sur le timbre. Par exemple, nous sommes en train d'écouter un piano, oui. Un pianiste qui joue tout seul. On sait déjà que ça va être du son du piano. On va pas s'imaginer qu'il y a un violon qui va arriver. Si c'est un duo, bon, déjà, on peut anticiper ça. Ensuite, on va anticiper sur le rythme, sur la pulsation, c'est-à-dire quelle est note. Parabarapam pam 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 parabarapam pam pam parabam pirararam. Donc le rythme va créer aussi une structure temporelle. Donc oui. On s'attend à voir des notes à certains moments plus qu'à d'autres.
C'est exact. Mmh. Oui.
Et ensuite il y a l'aspect mélodique aussi.
Alors voilà.
Et là aussi, là on devrait parler un peu de choses un peu plus de termes un peu plus compliqués peut-être de musicologie comme la tonalité. Mmh. La tonalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, dans chaque morceau de la musique occidentale, on va dire, mais dans plein d'autres cultures aussi, il y a un attracteur, comme un centre de gravité, qui est la tonalité, et qui est en fait une note qui est importante, particulièrement importante, à un moment donné, mmh. Et qui devient un peu le centre, et toutes les autres notes, elles tournent autour. Oui. Mais celle-là, en fait, au final, comme que j'ai chanté tout à l'heure, la petite mélodie, pam, parabam, pam, pam, pam. Et il faut, oh, pam, pam. Mm-hmm. Je peux pas faire pam, pam. Oui, oui. Ça marche pas. Tout le monde dira, ah, il s'est trompé, c'est une fausse note, etc. Donc, tout le monde sait qu'il y a des fausses notes. Et ces fausses notes, en fait, et tout le monde peut les entendre. D'ailleurs, on reviendra là-dessus oui, tout à l'heure.
Pourquoi sur le... fausse note?
Mais elle est fausse parce que il y a un certain nombre de notes qui ont créé un centre de gravitation tonale autour de la tonique et donc dans cette tonalité là il y a que certaines notes qui peuvent être placées et donc ça le cerveau aussi il sait très bien ça c'est géré par des règles et des règles qu'on appelle les règles de l'harmonie comme dans le langage il y a la syntaxe c'est la jolie fille et pas la jolie garçon ça marche pas.
D'accord.
Il y a aucune chance de dire la jolie garçon. Sauf moi, je pourrais le dire parce que je pourrais me tromper quand je suis fatigué et faire des fautes de grammaire.
Moi qui entends mal.
Mais dans la musique, c'est un peu la même chose. Il faut voir que là aussi, il y a une syntaxe, en fait. Il y a des règles qui sont aussi assez sophistiquées et qui nous permettent de prédire dans une certaine mesure, quel type d'information on va voir. Mais, il y a un mais, parce que ta question est une question maligne quand même. Mais dans la musique, il y a plus de liberté, il y a plus de souplesse donc par rapport au langage. Donc effectivement, dans le langage, comme il y a déjà des règles très fixes et rigides au niveau de la grammaire, donc la jolie fille, on peut pas dire la jolie garçon, donc ça c'est pas possible. Mais aussi il y a ce que tu disais tout à l'heure, la prédiction, donc le sens, on fait un sens dans une phrase, donc on sait, et s'il te plaît, on est en train de manger, les pâtes, elles sont pas très bonnes, je te regarde, je te dis s'il te plaît passe-moi le sel, et tu sais que je vais te demander le sel ou passe-moi le poivre ou alors ça sera le parmesan, mais voilà, je vais pas te demander passe-moi tes chaussures, tu vois, et ça serait très peu probable. Alors musique, il y a Il y a beaucoup plus de bifurcations possibles. Il y a beaucoup plus de choix possibles, on va dire, dans une phrase. Et d'ailleurs, Bach, c'est un génie là-dessus. On n'arrive jamais à anticiper. C'est très dur de le mémoriser. D'ailleurs, bah, parce que lui, il dit, ah, il va aller là. Et en fait, non, il va pas là. Il va de l'autre côté. Mais c'était l'autre côté, mais c'était un peu moins probable. Mais c'est bon aussi, quand même. Donc, ça marche. Donc, il y a quand même des règles à respecter. Les compositeurs, ils les connaissaient bien, mais ces règles, elles sont un peu moins strictes. Donc, effectivement, ça fait travailler aussi cette propriété d'anticipation, d'une certaine manière. Le coût de la musique nous oblige à travailler ça, parce que le monde de possible, à chaque instant, est multiple. Mmh. Et donc, à quel endroit le musicien, il va nous amener? Voilà. Ça, c'est un peu la surprise, et c'est un peu le plaisir aussi d'écouter la musique.
Oui, alors je me pose la question, et puis après on passera à autre chose, mais je me pose la question, ces règles dont tu as parlé, est-ce que ce sont des règles rationnelles ou c'est des règles qui relèvent de l'affect, de l'émotion, de, ou d'autres choses, je sais pas.
Alors il y a un débat par rapport à ça. Les règles dans la musique, d'une part, elles relèvent de certaines propriétés des sons, et de notre système auditif. Une propriété importante des sons, c'est que dans chaque son, en fait, il y a plusieurs sons.
Oui.
Quand on joue un son d'un piano, qu'on dit, on joue le La
qui vibre.
À 440, en fait, il va y avoir ce qu'on appelle les harmoniques.
Oui.
Donc, dans ces La, il va y avoir plein d'autres sons. Donc, c'est-à-dire que les sons, c'est des sons qu'on appelle complexes, c'est pas des sons purs. Un son pur, ça serait juste une onde qui oscille à la même fréquence. Ça fait le timbre des instruments et ces propriétés, c'est des propriétés qui sont assez naturelles, c'est-à-dire que la structure, la série harmonique en fait, elle sera fixe. Mmh. OK, pour des sons harmoniques comme un violon, un piano, il va avoir plus ou moins de certains harmoniques, mais ces harmoniques, ça sera toujours le même.
Bon, ça c'est de la physique.
Voilà, ça c'est de la physique. Et là-dessus en fait, ce qui fait que dans une série de sons, ben il va y avoir certains harmoniques qui vont revenir plus souvent que d'autres. Mmh. Et ces harmoniques, en fait, dans le do, par exemple, il y a beaucoup de do, mais il y a aussi du sol. Il s'avère que le sol, en do majeur, c'est la dominante. C'est-à-dire que la deuxième note plus importante, c'est le sol, et c'est on appelle ça la dominante.
Oui.
Et que c'est une des notes harmoniques la plus importante. On la trouve assez tôt dans la série harmonique. Donc ça pour dire qu'il y a une partie qui est reliée aussi à la physique. La physique détermine, du coup, un certain nombre de règles perceptives. Mais, néanmoins, il y a aussi d'autres choses, c'est-à-dire que le cerveau, lui aussi, il peut se passer, dire bon, la physique, c'est bien, c'est important, mais moi, je peux faire aller un peu plus loin, et du coup, créer aussi des règles qui sont assez abstraites, comme on peut trouver dans le langage, par exemple, la jolie fille ou la jolie garçon, c'est complètement abstrait, c'est pas dans la physique des sons, en fait, c'est fille, c'est féminin, mais la notion de féminin, c'est une notion assez abstraite. Et donc ça aussi, on peut retrouver dans la musique, bien que ça soit, on le retrouve ça un peu moins par rapport au langage.
Bien, on va faire une petite pause musicale, et puis après tu me diras ce que tu as choisi, puisque c'est toi qui l'as choisi.
Thank you.
rappelle, chers auditeurs, que nous sommes avec Daniel Schoen et nous parlons ce soir de cerveau et musique. Alors, on a bien débattu sur les sons. J'ai une question. Est-ce qu'il y a, y a-t-il un codage inné ou culturel inscrit dans le cerveau qui permet de ressentir le juste, le faux, le beau?
Oui, oui, oui. Il y a les deux. Il y a un codage inné. Il y a un codage. Il y a une partie culturelle. C'est un peu l'éternel débat entre nature et culture,
hein,
qu'on trouve un peu partout dans la philosophie aussi, et qu'on retrouve dans la problématique de la musique. Alors, c'est important d'arriver à comprendre en fait que ces deux aspects ils sont importants. Il y a des gens qui vont plutôt défendre la partie innée, il y a plutôt des gens qui vont défendre la partie culturelle, mais ça, je pense que c'est moins intéressant ici. Et donc, je vais donner quelques exemples pour défendre un peu les deux causes.
Ok.
Donc, pour défendre la cause de l'inné, on va prendre un exemple d'un musicien. Là, on vient d'écouter Fabrizio Ciprani qui jouait du violon, la sonate de Vivaldi, mais on pourrait en prendre.
Alors, qui est-ce qui jouait du violon? J'ai oublié de te le demander.
Oui, c'était Fabrizio Ciprani, qui est voilà. Un violoniste italien qui joue du Vivaldi, qui était donc composé à Venise, à côté chez moi, voilà. Mmh. Donc joué par un grand violoniste italien. Mais on peut prendre un cas encore plus connu que Fabrizio Ciprani, pas forcément tout le monde le connaît, mais on va prendre Yehudi Menuhin,
oui,
qui est sans doute un des violonistes le plus connu du 20e siècle. Et Yehudi Menuhin, donc pour parler de l'inné, les gens disent, moi jamais je vais arriver à jouer comme lui. Donc forcément, si on est bon musicien, en fait, c'est codé dans les gènes. Et les gens vont dire, moi, je suis pas très bon musicien, j'ai pas une oreille musicale, etc. On va entendre ça assez souvent. Et ceci est en partie vrai. Donc, Menuhin, c'est vrai que c'était un talent extraordinaire et pas n'importe qui, même avec n'importe quelle quantité de travail, pourrait arriver à jouer à 12 ans 3 concertos à la New York Philharmonic Orchestra, 3 concertos différents de Brahms, Beethoven, je sais plus quoi ce qu'il avait joué dans la même soir par cœur à 12 ans. Voilà, donc il faut le faire. Il y en a d'autres des génies dans la musique, d'autres qui sont très connus, bien sûr Mozart, Beethoven, Mendelssohn, il y en a plein qui étaient très très talentueux déjà depuis jeune âge, donc qui montrent qu'il y a sans doute un côté inné. Cela dit, Menuhin lui-même, dans son autobiographie, il dit une chose que je trouve très intéressante concernant le talent, parce que quand on parle de inné, on vient à la notion du talent. Et il dit le talent. Il dit pour moi, c'était pas facile de jouer du violon quand j'étais petit. Il dit lui-même, alors qu'effectivement il était très bon, mais dit mais ce que j'avais à moi, c'était le besoin de jouer du violon. Depuis le plus jeune âge, une folle envie de faire quelque chose avec ces sons, avec cet instrument-là. Et donc c'est là où on voit une notion un peu différente de ce côté-là. Donc il faut pas concevoir l'inné comme un enfant à 3 ans, il naît, il sait déjà jouer.
Il sait tout, voilà.
Pas du tout. Donc lui, il dit un enfant, il naît, et effectivement, il peut aimer ou pas la musique. Et lui, forcément, il aimait énormément, et sans doute qu'il avait aussi un cerveau qui avait une prédisposition aussi. Je vais en venir aussi par rapport à certains airs qui sont importantes. Mais après, il faut travailler. Après, il faut travailler. Et Menuhin, lui, il a travaillé comme un fou depuis qu'il était tout petit. Et donc, forcément, qu'à 12 ans, il a déjà cumulé beaucoup plus d'heures de pratique musicale que moi, j'ai cumulé jusqu'à maintenant, que j'en ai 44 ans. Mmh. Tu vois. Donc, voilà. Il y a cet aspect-là. Ceci étant dit, il y a pas mal d'études qui montrent que un des meilleurs prédicteurs de la réussite d'un musicien, c'est le nombre d'heures de travail.
Ah bon.
Donc ça va plutôt dans le sens du côté de la culture, donc de la pratique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plus on travaille, le plus on a des chances de réussir, d'être bon musicien. Et en ce qui concerne la recherche autour du cerveau, on retrouve des données qui sont similaires. Ça veut dire qu'on va regarder, par exemple, comment des cerveaux des musiciens, de nos musiciens, ils sont différents, et on trouve qu'en fait, certains airs, par exemple des airs motrices qui contrôlent la main, ou le corps calleux, en fait, qui est une structure qui permet de communiquer entre l'hémisphère droit et l'hémisphère et gauche.
Oui.
Donc ces structures-là, ils vont être différentes, vont être peut-être plus gros, il va y avoir plus de soit des substances blanches, donc la communication entre les deux hémisphères, soit plus de neurones, du coup, au niveau des aires motrices. Mais que ces différences vont être des plus importantes le plus on a travaillé, en fait, le plus d'années on a de pratique derrière. Donc ce qui veut dire que en réalité, la pratique va façonner le cerveau dans son fonctionnement et voire même dans sa forme. On trouve vraiment des formes légèrement un peu différentes, je ne vais pas rentrer dans les détails, dans le cerveau du musicien. Et donc ces deux aspects, ils vont bien sûr, ils vont ensemble. Et donc oui, il y a un côté inné, mais oui, il y a un côté culturel. Et aussi sur l'aspect inné, un autre point qui peut être important aussi, c'est le pendant pathologie. C'est-à-dire que d'un côté, on peut être comme Menuhin, donc avoir un talent, comme on peut le définir comme on veut. En tout cas, lui, il le définit comme cette folle envie de jouer et une facilité aussi quand même. Et de l'autre côté, on peut avoir des gens qui, eux, ils ont du mal à différencier les sons, par exemple. Et ça existe un trouble qu'on appelle la musique congénitale. Donc, congénitale, ça veut dire qu'il y a un déficit de naissance. Oui. Donc, des gens que de naissance, c'est pas forcément héréditaire, mais il y a un petit côté héréditaire. Mais de naissance, ils ont du mal à distinguer deux sons. On fait pas, ils vont dire, c'est le même son.
C'est le même.
Voilà. C'est sûr, ces gens-là, ça va être dur pour eux de devenir des musiciens. Donc, encore une fois, ça montre comme il peut avoir un côté inné. Mais pour moi, je pense que surtout dans notre société, à ce moment, c'est important de mettre l'accent sur l'aspect culturel, l'aspect travail, l'aspect pratique, l'aspect apprentissage. Dire voilà que n'importe qui, moi le message que je donne souvent, n'importe qui peut apprendre. Et il y a des projets qui sont en ce moment de faire apprendre de jouer d'un instrument de musique à des malades d'Alzheimer qui ont 85 ans, voilà, qui sont menés à Dijon, par exemple, par Emmanuel Billon. Donc je trouve ça génial. Et les gens, ils peuvent même avec une maladie d'Alzheimer apprendre des notions de pratique d'instrument. Bien sûr, s'ils n'ont pas l'Alzheimer, c'est encore mieux. Des personnes âgées peuvent continuer à apprendre et se faire plaisir. Voilà, donc ça, c'est très important, je pense.
Alors, un autre aspect, quand on écoute de la musique, on peut éprouver de la satisfaction, comme je le disais tout à l'heure au début. On peut éprouver de la satisfaction, on peut éprouver de la douleur, etc. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Est-ce que le cerveau, à la réception des informations de la musique, va sécréter des substances qui vont agir sur notre plaisir, sur notre...
Comment des ça substances magiques. Oui, il s'agit de la dopamine. La musique, comme beaucoup d'autres stimuli qui évoque des émotions, en fait, il y a des études effectivement qui ont montré que le réseau émotionnel impliqué lorsqu'on écoute une musique, en fait, lorsqu'il y a des études assez jolies sur le frisson musical, donc on va écouter la musique qui te donne le frisson. Donc toi, tu viens chez moi avec ton disque, avec ton CD préféré, et tu dis, là, à ce moment-là, j'ai un frisson, et moi, je vais regarder dans ton cerveau ce qui se passe.
Oui.
Et donc, on voit effectivement le cerveau limbique, plutôt, donc les régions les plus anciennes, voilà, l'archéocortex intérieur. Le cerveau reptilien, on l'appelle de plusieurs façons, en fait, qui est mis en jeu. Et ces structures, elles sont importantes d'une manière générale dans tout le ressenti émotionnel. Que ça soit en vision, dans la vision, que ça soit dans l'audition, voilà. Et il y a effectivement la sécrétion d'un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine. Au niveau de voilà, là encore, au niveau du système, on appelle ça le système striatal, mais c'est pas très important. En tout cas, les neurones, ils vont relâcher de la dopamine. Et ça, c'est fait en réponse au plaisir engendré par la musique. Et là, je trouve que c'est un point important parce que souvent, on me pose la question, dire, mais pourquoi, en fait, la musique, elle existe encore chez l'homme? Pourquoi? Quelle est la valeur dans notre société de la musique? Pourquoi elle est toujours là? Pourquoi elle n'a pas disparu à fur et à mesure des millions d'années? Pourquoi elle est préservée? Il y a des chercheurs qui disent la musique, en fait, ça ne sert à rien.
Oui.
Et en fait, là, on voit très bien à quoi elle sert. Elle sert comme système régulateur, donc, pour créer ce qu'on appelle l'homostasis, en fait, donc un équilibre au niveau émotionnel. Donc, par le coup de la musique, on va relâcher des substances qui vont créer du coup un équilibre au niveau de notre système émotionnel. Et ça, le système émotionnel est très important parce que je peux pas me fâcher avec toi en ce moment. Enfin, je peux pas péter les plombs, voilà, comme ça et claquer la porte et partir. Voilà, donc c'est important de savoir réguler son système émotionnel. Et ça, c'est vrai dans la vie de tous les jours et d'autant plus il y a longtemps, voilà, donc où il y avait des vies de groupe très intenses, où on peut imaginer que la musique a joué vraiment un rôle de régulateur des émotions au niveau des groupes.
Excuse-moi, je vais te poser une question pour bien comprendre pourquoi une musique peut provoquer de l'émotion chez une personne et puis le laisser complètement froid chez une autre personne. Est-ce que c'est culturel parce qu'on connaît cette musique et il va se passer quelque chose ou bien je sais pas quoi.
Oui, je pense qu'il y a forcément un côté culturel parce que là, quand il s'agit d'émotion, c'est quand même il faut la comprendre.
Il faut la comprendre.
On aime ce qu'on comprend, donc il faut connaître quelque chose. Voilà, il faut connaître, il faut savoir reconnaître, se reconnaître dans cette musique. Et donc effectivement, il y a un côté culturel qui est important. Néanmoins, dans toutes les cultures, on peut retrouver que la musique a cet effet, bien qu'elle soit différente. C'est sûr que moi, si j'écoute une musique peut-être qui est très éloignée de notre culture, on imagine une musique du Tibet ou de la Chine, peut-être je vais pas avoir des frissons de musique. Et je vais être plus sensible à du Mozart, du Schumann, mais quelqu'un dans la Mongolie, peut-être lui, va pas du tout être sensible à Mozart. Mais par contre, il va être sensible à la musique de sa culture.
Oui, c'est ça. Ok. Alors, j'avais prévu de te poser une question, mais tu as presque répondu déjà. Certaines personnes chantent faux. Pourquoi ?
Oui, j'ai presque répondu, mais on pourrait en dire un peu plus. Donc, il y a effectivement des personnes qui souffrent de ce déficit congénital qui s'appelle la musie. Mais la musie a un déficit perceptif. Donc effectivement, si on a un déficit perceptif, donc ça veut dire qu'on n'arrive pas à distinguer deux notes, et la hauteur de deux notes, ben on aura du mal à chanter. Donc ces gens-là, forcément, ils vont chanter faux. Mais ces gens-là, ils vont aussi pas apprécier la musique. C'est des gens qui apprécient pas la musique et donc qui chantent faux. Mais il y a d'autres personnes encore que eux, ils apprécient la musique et ils chantent faux.
Ah.
Alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est assez intéressant parce que, du coup, il n'y a pas un trouble de perception, mais il n'y a pas de trouble de production non plus parce que c'est des gens qui parlent normalement. Bon, parler, c'est quand même très compliqué. Et donc, ils peuvent faire des notes. Tout simplement, ils ont du mal à faire le lien entre ceux qui sont en train de produire et ceux qu'ils entendent.
C'est le feedback qui
c'est
se passe
feedback.
Mal.
Voilà, c'est le retour qui se passe mal. Et le feedback, en fait, c'est le lien entre le système auditif et le système moteur. Voilà. C'est un peu l'image motrice de ce qu'on fait. En réalité, quand on entend quelqu'un parler, quand on entend quelqu'un chanter aussi, en fait, on s'imagine nous-mêmes, donc notre système moteur, il va s'activer comme si nous-mêmes étions en train de le faire. Et donc, pour ces personnes, ça, c'est un peu plus difficile à faire. Donc, pendant qu'ils sont en train de produire quelque chose, ben, ils ont du mal à s'imaginer ce qu'il faut faire pour corriger. Tout le monde chante faux d'une certaine manière, mais on se corrige.
Oui.
Si tu me dis, chante-moi cette note-là, je vais la prendre de loin et je vais m'en approcher le plus rapidement possible.
Qui va voilà. Se faire, voilà.
Voilà. Et ben ces gens-là, ils ont du mal à faire ce donc ça c'est aussi une autre c'est pas du pour le coup, c'est pas vraiment considéré comme une pathologie, mais il y a ces deux typologies qui sont assez différentes, donc ceux qui ne perçoivent pas la différence entre deux notes et ceux qui entendent bien, qui pour le coup ont la chance de pouvoir apprécier la musique, mais ils sont frustrés par le fait que s'ils chantent Joyeux anniversaire ensemble, ben, tout le monde va se moquer d'eux. Et en fait, ils sont pour rien. Voilà, c'est pas un manque de bonne volonté. Voilà.
Bon, on avait prévu un deuxième morceau, on va le passer, mais très court. Mais ça vaut la peine d'entendre quelques mesures. Donc voilà, on va avoir une pause musicale, s'il te plaît. Thank you. avec Daniel Schoen pour nous parler de cerveau et musique. Alors Daniel, c'est toi qui as choisi cette musique.
Oui, c'est Yehudi Menuhin qui joue du Bach, mais merveilleusement. C'est vraiment, il a révolutionné la façon de jouer Bach, à mon avis. C'est avec un chant magnifique.
Bien, alors, est-ce qu'il y a similarité entre langage et musique?
Donc oui, la réponse est oui, mais je ne vais pas m'arrêter là, ne t'inquiète pas. Et c'est ma spécialité en plus. Donc il y a similarité, il y en a nombreuses, on en a vu déjà quelques-unes. Mais on va commencer par dire déjà que langage et musique et le partage le monde sonore. Nous sommes en train de parler, nos auditeurs sont en train de nous écouter. Mmh. Et donc là, je pourrais être en train de chanter et ils seraient en train de m'écouter, ou alors peut-être un peu moins parce que je chante pas si bien que ça. Et je joue du violoncelle plutôt.
Mais tu joues mieux.
Voilà, je joue mieux. Et donc l'information, elle passe du coup par le système auditif. Donc là déjà, on a une grande similarité. Ce qui est nécessaire du coup pour le cerveau quand on écoute de la musique, on écoute quelqu'un qui parle, c'est de codifier l'information, les premiers morceaux d'information. Donc, il faut coder déjà le son, l'information, le son, la vitesse, la hauteur, voilà, des choses comme ça. Mais après, il faut aller un peu plus loin. Il faut créer des catégories sonores. Par exemple, moi, que je suis en train de parler, chaque fois que je dis, je veux dire, la syllabe, le son bas, par exemple, le son bas, je vais le prononcer légèrement d'une manière un peu différente d'une voix sur l'autre. Ça, c'est jamais le même acoustiquement. Mais toi, tu vas toujours percevoir bas. Écrit B-A. Voilà. Donc ça, ce qu'on appelle une catégorie perceptive. Donc le cerveau a l'intérêt de faire des catégories parce que si chaque fois que je dis un bas différent, tu percevais un truc différent, ce serait fou, on n'arriverait pas à se comprendre. Mmh. Voilà, donc il faut avoir un alphabet limité, un nombre de phonèmes, de sons, donc de langage limité. Et c'est la même chose pour la musique, c'est exactement la même chose. On a des sons, on a des hauteurs, et ces hauteurs, il faut qu'elles soient limitées. Là, Dan Menuhin qui joue, on entend des sons, même si lui, il n'est pas exactement juste, même s'il est très juste, parce qu'il est très bon, mais on n'est jamais parfaitement juste quand on joue du violon. Parce que chaque fois qu'on va poser le doigt, il va être un endroit légèrement différent. Et pourtant, on va toujours entendre le do comme un do, etc. Même si on ne sait pas que c'est un do, mais voilà, cette note-là, on va la catégoriser comme une note différente de l'autre qui est un peu plus aiguë ou alors un peu plus grave. Donc, on a ce phénomène qu'on appelle la catégorisation et donc qu'on retrouve dans la musique et dans le langage. Ensuite, donc, on a des petites briques là, on a des petits éléments de base avec lesquels on peut commencer à jouer, comme je disais tout à l'heure, l'exemple du capla, donc l'enfant qui prend des petits morceaux, ils sont tous pareils. Dans le cas de la musique et du langage, on a des morceaux qui sont un peu différents, mais au final, il n'y en a pas tant que ça. Voilà, dans la parole, il y a un certain nombre de phonèmes, mais qui sont limités, ils dépendent de la langue, il y a des langues qui ont de plus ou moins de phonèmes. Et de la musique aussi, on pourrait imaginer, souvent on dit on a 12 notes quand même, après on a les octaves, okay. Après on a des instruments différents, le timbre, ok, mais soyons le plus simple possible, prenons quelqu'un qui joue de la flûte avec deux octaves seulement, une petite flûte d'enfant, deux octaves, des sons relativement simples sur le plan acoustique, toujours les mêmes sons, et là le musicien il va commencer à s'amuser, à les combiner, à les mettre les uns après les autres. Et pour faire des mélodies, et donc cet art de combinatoire dont on a déjà parlé tout à l'heure, on le retrouve dans la musique et on le retrouve dans le langage. Donc il faut combiner les sons pour faire des mots. Il faut combiner donc les phonèmes pour faire les mots. Il faut combiner les notes pour faire des petites mélodies. Donc là, encore une fois, voilà, on va retrouver une similarité. Et on a vu aussi tout à l'heure qu'après, il y a des règles qui vont gérer un tout petit peu la façon dont on peut. Donc il y a quelques règles. Même avec le capla, l'enfant il va vite comprendre que certaines configurations vont pas tenir parce qu'il y a la force de gravité qui va faire qu'à un certain moment, ça va tomber. Donc il y a certaines structures qui tiennent et d'autres qui tiennent pas, et donc ces structures elles peuvent être, comme je disais tout à l'heure, pour la musique un peu plus perceptive, mais sont aussi cognitives, c'est-à-dire un peu abstraites. Donc il y a des règles qui sont plus ou moins abstraites et sont certainement très abstraites pour le langage, le passé, le futur, tout ça, c'est des catégories qui sont abstraites. Donc là on peut avoir aussi des différences, mais là on a quand même un panel de similarités. Et donc ça, c'est voilà, on voit des similarités sur le plan des structures. Après, j'ai déjà aussi parlé un tout petit peu sur la question de la latéralisation hémisphérique, on a vu qu'en réalité, il y a des similarités au niveau de quelles sont les régions qui traitent l'information musicale, l'information langagère. Et donc là, effectivement, je le répète, vraiment déjà bien sûr au niveau de la cochlée, mais au niveau sous-cortical et au niveau cortical, il y a énormément d'air qui traite à droite comme à gauche l'information musicale et l'information langagière, ce qui va créer du coup de passerelles entre les deux. Si on pense d'ailleurs le chant, c'est une bonne passerelle parce que dans le chant, il y a l'information musicale et l'information langagière en même temps. On peut même imaginer que peut-être il y a un chercheur anglais qui dit que peut-être qu'au final la première langue de l'homme était une langue chantée.
Ah oui.
Pourquoi pas?
Mais le son, hein, en fait,
voilà,
oui, c'est sûr. Bon, est-ce que la pratique d'un instrument peut modifier la morphologie du cerveau?
Oui, il va modifier la morphologie, il va aller encore plus loin. Donc la morphologie, je disais un tout petit peu tout à l'heure, la pratique d'une manière générale va modifier le nombre des synapses,
oui.
Donc les connexions qui existent entre les neurones, ça s'appelle les synapses. Et donc ça, des connexions, on peut en faire pas mal. Chaque neurone peut en avoir jusqu'à 6000, 10000, je ne sais plus trop. Et donc on peut en générer des nouvelles. Et donc c'est sûr qu'il y a certains aires qui sont particulièrement stimulés par la musique, par la pratique musicale, qui vont... Là, on va du coup retrouver beaucoup plus des synapses et donc même des changements de forme du cerveau. Mais les changements les plus importants, on les trouve au niveau du fonctionnement de certains aires, sans que cela puisse avoir un impact forcément sur la forme. Sur la forme, c'est quand même des changements majeurs, mais sur comment l'information est traitée par une aire donnée, ça... Oui, ça c'est fortement influencé pour la musique et c'est fortement influencé par la pratique de la musique au niveau de toutes les fonctions dont je viens de parler qui sont importantes pour la musique et aussi pour le langage. Donc voilà, c'est important de garder ça à l'esprit. Donc on trouve des modifications du fonctionnement cérébral, pas seulement pour les fonctions qu'on pourrait imaginer comme des fonctions musicales, donc bouger plus vite les doigts, mais pas que ça, mais par exemple pour d'autres fonctions qui sont beaucoup plus larges, par exemple l'attention, la mémoire de travail, donc le fait que les musiciens ils ont une mémoire énorme, ils savent filtrer l'information qui est pas intéressante mieux que d'autres musiciens, ils savent filtrer le bruit aussi mieux que de nos musiciens, etc. Et tout ça c'est grâce à des modifications du fonctionnement du cerveau.
Bien, enfin pour terminer, il nous reste 2-3 minutes. On parle de musicothérapie. Alors, depuis le début de cette émission, on a un peu abordé les bienfaits, les apports de la musique, etc. La musicothérapie, elle est là pour soigner certains troubles. Quels sont les troubles auxquels elle peut amener quelque chose?
Alors, il y en a plusieurs, et c'est vrai qu'il y a un crescendo, surtout en France, mais dans le monde d'une manière générale, sur l'utilisation de la musique, sur des bases, du coup, de recherche neuroscientifique. Et on peut bien sûr imaginer, sur la similarité entre musique et langage, que la pratique de la musique va faciliter, ça on le sait. Les musiciens, déjà, ils apprennent plus facilement une langue étrangère, ils perçoivent mieux la parole dans le bruit, etc. Et du coup, toutes ces fonctions-là et sont importantes pour un enfant qui est malentendant. Par exemple, un enfant qui est malentendant, le bruit pour lui, c'est un des problèmes clés, même s'il est appareillé. Et donc, la pratique de la musique va l'aider à mieux traiter les sons et mieux filtrer et séparer les sons plus importants par rapport aux sons qui sont non pertinents. Mais c'est utilisé d'une manière générale pour d'autres troubles du développement du langage, donc tout ce qui est trouble du langage, dans la rééducation, mais pas seulement chez l'enfant, donc dans la dyslexie, chez les enfants dyslexiques. Nous avons mené des projets en Italie en montrant qu'effectivement, la pratique de la musique va faciliter chez les dyslexiques, en fait, ce qu'on appelle la conscience phonologique, donc la conscience du fait qu'il y a des sons qui sont différents, que ces sons ils sont associés à des lettres différentes, du coup, qui facilitent la lecture chez l'enfant. Mais on utilise la musique aussi historiquement depuis une quarantaine d'années chez les patients aphasiques pour les aider à récupérer. Donc le patient aphasique, c'est suite à un accident vasculaire cérébral, il va plus être capable de parler et donc il va devoir réapprendre à parler. Et là, la musique et le chant sont très importantes pour l'aider. Donc tout ce qui concerne la pathologie du langage, c'est très répandu. Et il y a aussi les troubles moteurs. Par exemple, chez les patients parkinsoniens qui ont, eux, des problèmes au niveau du contrôle moteur, là aussi, la musique et les aspects rythmiques de la musique sont utilisés pour faciliter les patients parkinsoniens à initier ces mouvements. Et il y a les aspects plutôt émotionnels aussi, dont nous avons aussi un tout petit peu parlé, donc tout ce qui est troubles émotionnels chez l'autiste, par exemple, mais aussi chez les malades d'Alzheimer. où la musique en fait peut aider à recréer un lien émotionnel, parce que le malade d'Alzheimer, il va se souvenir de certaines chansons, il va être content de les réentendre, il va être content de le chanter. Et donc voilà, il y a tout un ensemble du coup assez vaste de pathologies pour lesquelles la musique peut intervenir avec beaucoup de bénéfices.
Merci beaucoup Daniel, je suis sûr qu'on aurait eu encore 2 heures, on aurait pu encore parler,
je pense que
peut-être
oui.
Plus, mais en tout cas merci, tu nous as beaucoup éclairé sur bien des sujets, merci d'avoir consacré ce temps-là, chers auditeurs, à la semaine prochaine, bonsoir, bonsoir Daniel.
Bonsoir.
C'était Judaïsme Pluriel, chaque mercredi de 20h à 21h. Merci, bonsoir et à la semaine prochaine.